Et vous écoutez France Culture. Le but, mettre au jour ce qui avait vocation à demeurer caché, comme on libère le gaz infâme qui sommeille sous la vase. Christophe Carlier. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Soit une île en mer, rude et battue des vents, où la distribution du courrier est chaque jour un événement attendu. Las, hélas, un beau jour, le facteur ne se met plus qu'à distribuer des cartes postales où s'épanchent les croassements d'un corbeau. Drame ou révolution insulaire, que va-t-il advenir? Telle est la matière de ces ressentiments distingués, roman bref et cinglant, paru chez Phébus et signé de notre invité de ce jour, Christophe Carlier. Chronique en second temps d'émission avec l'exposition Détective de la Bilipo, tirée de la belle étude parue chez Joseph K. Numéro 1 de la revue Le Lapin Quotidien, journal édité par l'association David Lynch. The Art of Life, documentaire diffusé par Potemkin, un mauvais genre que nous conclurons avec un point sur les séries du moment. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui accueille ce soir Christophe Carlier que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes notre invité pour un roman très étonnant parce que très difficile à faire et parfaitement réussi. Donc la performance d'abord m'a intrigué, donc j'ai voulu vous rencontrer. C'est ce roman donc qui est paru chez Phébus qui s'appelle Ressentiment distingué, qui est un roman de corbeau. Et alors ça c'est très, il y en a de moins en moins, et ce qui fait que ce roman a une originalité toute particulière. Vous allez nous expliquer comment vous en êtes venu à concurrencer Clouzot et à marcher sur les brisés de cet univers.
Oui, le corbeau, j'aime beaucoup ce mot hein, qui est le titre du film de Clouzot. En fait, les policiers ou les magistrats parlent d'un anonymographe.
Quelqu'un qui
écrit des lettres anonymes, qui envoie des cartes anonymes. Je me suis un peu informé sur ces anonymographes. C'est vrai qu'il y a eu une belle époque, si je puis dire, où les affaires étaient assez fréquentes. L'âge d'or de la poste. Oui, dans les années 30, il y a un ancien policier qui avait travaillé sur 12 affaires, ce qui est quand même considérable, et qui a laissé un petit mémoire dans lequel il fait le point sur ces différentes affaires et sur la psychologie de ces anonymographes. On apprend beaucoup de choses. Par exemple, que l'anonymographe n'est pas toujours solitaire. J'imaginais, moi, a priori, qu'un homme qui envoie... quelquefois, il y a 2-3 personnes, ils racontent même, on sourit en apprenant cette information, qu'il y avait des lettres anonymes qui ont été confectionnées à l'intérieur d'un couvent. Donc on peut imaginer beaucoup plus que 2 ou 3 personnes.
Voilà tout à fait le genre de sujet dont nous raffolons à mauvais genre. Soyez donc le bienvenu. Christophe Carlier, vous serez confronté à Sixtine Audebert, si j'ose m'exprimer.
Bonsoir
Sixtine. Est-ce que dans Détective, il y a eu beaucoup d'histoires de corbeaux et d'anonymographes?
Je ne crois pas. Je ne suis pas une spécialiste de détective, mais parmi les faits divers relevés par le journal, il y aura quand même sûrement des affaires d'anonymographes.
De lettres anonymes. C'est vrai qu'à détective, on préférait la viande rouge.
Oui.
Voilà, et les photos un peu saignantes. On va vous revoir avec vous dans cette très belle monographie d'Amélie Chabrier et Marie-Ève Terenti, parue chez Joseph K. Recevez mon salut. Vous êtes polygraphe, multigraphe, exégète,
mais pas anonymographe. Vous allez voir les lettres que vous allez recevoir.
On va voir un peu le courrier que va générer cette émission. Eh bien, écoutez, madame, messieurs, soyez les bienvenus. Mais l'heure est venue pour nous d'ouvrir, alors non pas des lettres anonymes, mais l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec vous, Céline. Bonsoir.
Bonsoir, François.
À la lettre M comme...
Maric, Marianne Maric.
Oui, alors il s'agit d'une photographie argentique où l'on voit une jeune femme qui a la tête coupée, une jeune femme qui pince son téton, et on voit 3 jets de distinct de lait qui sortent assez violemment de son sein et qui tombent entre autres dans sa tasse de café qu'elle tient de l'autre main. Là, c'est vraiment une photographie qui n'est pas du tout réfléchie et qui est complètement spontanée dans ma vie de tous les jours, on peut dire. Et après, pour moi, elle fait aussi partie de la série des Femmes Fontaines dans le sens où... Je sais pas, mais c'est un jet, tout ce qu'on projette inconsciemment et consciemment autour de ça.
Le corps est au centre du travail de la photographe Marianne Maric. Des corps souvent déshabillés qui provoquent une sensation de trouble ou de rêverie sensuelle et qu'elle choisit de mettre en scène ou de prendre en photo de façon spontanée comme cette version moderne de la lactation de Saint-Bernard, thème qui est venu à l'esprit de Marianne Maric au moment où elle saisissait l'instant. Ce cliché fait donc partie d'une série plus longue sur les femmes fontaines. Allez voir la photo de cette jeune femme accroupie qui soulève sa jupe au-dessus de ses jets fontaines placés à même le sol dans la rue, la jeune femme est en talons, en culotte, en vêtements, donc seules ses jambes sont dénudées, l'été est là, rien de pornographique, si ce n'est ce jet qui s'amuse, fait des va-et-vient en chatouillant l'entrejambe de la demoiselle. Marianne Maric aime jouer avec les symboles, les tabous, les mots aussi. Elle puise son inspiration aussi bien dans le surréalisme, la mode. Elle bloque d'ailleurs pour les très british show studio, les photoreportages, Iggy Pop, Colette Renard ou même le groupe de Do pour qui elle a fait la pochette de leur deuxième album. Personnage volontaire et habité que cette Marianne Maric, sa biographie officielle, raconte même qu'à 10 ans, elle s'est enfuie en pleine nuit par la fenêtre de sa chambre après avoir vu l'enfant sauvage de Truffaut. Elle a passé la nuit à observer les sangliers en rute et les combats de cerfs, puis au petit matin, elle a été retrouvée inanimée par un garde forestier qui l'a ramenée chez ses parents. Mais ce jour-là, la petite fille s'est jurée qu'elle deviendrait artiste. Son objectif, réaliser ses fantasmes les plus fous, comme pourquoi pas inventer une dizaine d'années plus tard des filles lampes.
Lors d'une de mes performances, par exemple, qu'il y avait eu chez Magda Daniz ou au Palais Galliera, où j'ai présenté il y a quelques années ma performance des filles lampes, c'est-à-dire que ce sont des filles qui sont habillées d'abat-jour que j'avais fait avec un abat-jouriste. Donc elles sont statiques et on peut venir tirer ou non une ficelle qui est à la hauteur des genoux et qui fait que la lampe, la robe s'allume. Et ce qui a assez dérangé, avant il y avait bien sûr des gros malins qui vont dire « Oh, on va allumer les filles, etc. etc. » Et en fait, les réactions sont très très drôles, dans le sens où il n'y a pratiquement ou très peu de garçons qui viennent allumer les filles ou les éteindre, alors que c'est à hauteur des genoux, qu'elles sont complètement habillées. Et en fait, en en parlant beaucoup, etc., c'est parce que ce sont, et je demande toujours à ce que ça le soit, des filles de tous les jours. Et ce ne sont pas des mannequins qui sont là pour ça, ou qui posent, ou qui ont une beauté extraordinaire. Oui, on peut penser qu'elles sont très belles parce qu'il y a toujours le truc du rouge à lèvres, etc., qui va avec la robe. Mais ce sont des filles qui ne sont pas allumeuses, qui ne se croient pas trop belles. Et c'est ça qui fait que les garçons ont complètement peur, en fait. Mais c'est ce qui est drôle aussi. C'est aussi qu'on a compris mon travail.
Pour retrouver l'univers de la photographe et artiste Marianne Maric, allez sur son Instagram ou sur sa page Facebook. Alors pour les Parisiens, deux de ses photographies sont visibles en ce moment au Cœur Galerie, située rue de Turenne, à l'occasion d'une exposition collective intitulée « Le quatrième sexe, indéfinition des genres, réaffirmation des plaisirs ». On la retrouvera aussi à Beauvais en tant qu'artiste associée au Quadrilatère dans le cadre de l'Écart Absolu, un programme de 3 expositions qui vient de démarrer et qui court jusqu'au 17 septembre.
Merci Céline pour cette entrée. Marianne Maric de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. Christophe Carlier, vous avez noté le mot lactation, vous qui avez participé à la rédaction et la confection du dictionnaire de l'Académie française. Lactation, vous pouvez nous faire une petite approche lexicographique de la lactation?
Mais vous m'avez appris que c'était un terme qui appartenait au vocabulaire religieux et qui désignait le moment où la Vierge allaitait Saint-Bernard.
L'enfant Saint-Bernard.
L'enfant Saint-Bernard. Oui, quand même.
Sinon, oui. Ça aurait été un peu olé-olé quand même, comme séquence. Hein.
Paco, vous-même, vous êtes touché par
la
lactation de Saint-Bernard.
Oui, c'est très joli.
Et la version de Marianne Maric est probablement plus troublante que les tableaux qu'on peut voir de Saint-Bernard en train de recevoir ce jet de lait de la Sainte Vierge.
Oui, ça, je vous vois venir. Eh bien, par tous ceux qui voudraient s'intéresser à la nutrition surnaturelle de Saint-Bernard, on peut rappeler l'endroit, la revue?
Alors on peut surtout aller dans cette galerie qui s'appelle Le Cœur et qui est rue de Turenne. Mais alors là, ne soyez pas déçus, vous ne verrez pas ça, mais vous verrez par contre un ours et une femme qui se frottent les fesses sur un ours. ours est une des photographies que Marianne Maric propose en ce moment dans cette galerie Le Cœur à Paris, rue de Turenne.
Un rêve. Merci Céline. Et maintenant, dirigeons-nous, embarquons en destination de l'île au loin, dans laquelle Christophe Carlier a campé ses ressentiments distingués, un roman qui est l'objet ce soir de Mauvais Genre. Vol Flow, le choix de Laurent Polleret pour ouvrir sa playlist de ce soir dans ce mauvais genre résolument insulaire et énigmatique. Christophe Carlier, je le répète, vous êtes notre invité pour Ressentiments distingués, un roman qui paraît chez Phébus. Alors, ça n'est pas un polar, ça n'est pas un roman policier. Comment on peut le qualifier ? C'est un roman point ? C'est un roman énigmatique ?
Oui, mais c'est un roman dont l'énigme me semble psychologique, plus que policière. C'est-à-dire que la partie du roman policier qui m'amuse toujours, moi, c'est la part de la déduction. Or, il n'y a pas vraiment de scène de déduction ou un moment où tout d'un coup, l'intelligence d'un détective arrive à refaire marcher, à refaire fonctionner ensemble différents éléments qui étaient épars dans le récit. Là, le mystère, l'énigme est plutôt psychologique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on écrit des lettres anonymes et pourquoi est-ce que quand on en a envoyé une, on ne s'arrête pas là? Et qu'il n'y a qu'une sorte d'engrenage dans lequel le personnage arrive à être pris lui-même.
Alors avant d'aborder dans l'île, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours, Christophe Carlier. Donc vous avez fait une thèse universitaire sur Marguerite Duras et la mort. Oui. Vous avez travaillé sur les mythologies, oui. Également dans le cadre de l'Académie, je le répète, sur les différents dictionnaires. Et on le sent en vous lisant, les mots sont placés là où ils doivent être et articulés comme ils doivent l'être. Donc économie de mots, économie de moyens, mais grande efficacité du lexique et du vocabulaire. Et puis vous êtes...
Oui, il y a une jolie phrase de Cocteau, je le cite parce qu'il a été membre de l'Académie, qui disait la plus réussie des œuvres littéraires ne sera jamais qu'un dictionnaire en désordre.
Ah bah très bien, quoi. Nous notez, on la mettra sur notre site et sur nos réseaux sociaux, Christophe Carlier. Et puis, vous vous êtes intéressé assez tardivement, on peut dire, au récit policier, ou ce qu'on appelle le récit d'énigme, avec un précédent titre qui s'appelle L'assassin à la pomme verte et qui se passe, je ne l'ai hélas pas lu, dans un hôtel.
Oui, dans un hôtel.
Alors là, c'est à la fois une île et en même temps, c'est un lieu fermé.
Je crois que c'est le décor des romans qui leur donne leur ton. Et dans un palace, imaginez en effet une sorte de meurtre un peu feutré et un peu surréaliste, puisque dans le titre, L'assassin à la pomme verte, il y avait un clin d'œil au tableau de Magritte. Et dans Ressentiments distingués, cette île avec les rochers, le vent, l'orage, les vagues, etc., j'imaginais plutôt des rapports à la fois plus acérés entre les personnages et quelque chose qui laissait plus de place aussi à l'intériorité.
Est-ce que vous avez été marqué par Agatha Christie ? Je crois que les Dix Petits Nègres témoignent d'un processus similaire.
Il y a aussi un roman d'Agatha Christie sur une histoire d'anonymographe qui s'appelle Une plume empoisonnée. Mais je ne peux pas dire que j'ai été vraiment influencé par elle. Bien qu'il y ait une chose assez intéressante dans ce livre, dans le livre d'Agatha Christie, il y a des lettres anonymes qui parviennent aux gens d'un petit village anglais où normalement tout le monde devrait être extrêmement policé et courtois. Et assez vite, quelqu'un comprend que ces lettres anonymes, elles cachent quelque chose. Parce qu'au fond, on ne reproche aux gens que des banalités. Et un véritable corbeau aurait vu plus juste. Donc, ces lettres anonymes, elles sont fausses. Il y a autre chose qui va se passer. Mmh. Et comme toujours dans les romans d'Agatha Christie, il y a ce premier mystère qui en cache un autre beaucoup plus épais et auquel on n'a pas pris garde quand on lit les premiers chapitres.
Alors, on peut évoquer aussi, je le faisais en début d'émission, le film de Clouzot. Est-ce que ça a été pour vous un déterminant dans votre désir d'écrire cette histoire, quoique ce soit tout à fait différent?
Alors, c'est extraordinaire. Évidemment, je me suis intéressé à ce film que j'ai vu et revu, et puis j'ai lu un peu des choses sur l'histoire de ce film. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui a déclenché mon désir d'écrire dessus, c'est moins le film lui-même que la lecture d'un livre qui a aussi inspiré Clouzot, oui, et d'une étude sur les anonymographes. Et lui-même s'était intéressé à cette histoire, dans lequel, alors, je trouve qu'il y a un rapport au langage qui est très fort. Dans les cas des lettres anonymes et dans le film de Clouzot, il y a un intérêt sur la façon dont les lettres sont écrites. Il y a la première lettre qu'on voit dans le film, je crois, elle est rédigée de la manière suivante. « Vieux cadavre, tu as un cancer du foie croquignolé qui va te mener grand train aux asticots. Germain se paye ta pauvre bobine de crevard, mes amitiés au Père éternel. »
Mais là, c'est quasiment de la poésie.
C'est incroyable d'avoir rédigé cette lettre de cette manière-là. Et dans le film, évidemment, il y a en plus la possibilité de figurer la lettre avec les ailes du corbeau qui servent de signature. Enfin, c'est intéressant, l'épaisseur de la lettre. Et puis, comme toujours, dans les films en noir et blanc, on a l'impression que la part de l'inconscient est plus forte que dans les films en couleur. Dans les films anciens, on a cette présence de l'ombre et des mauvais sentiments, des arrière-pensées, enfin, qui, je trouve, donne au film une allure extrêmement troublante.
Alors, votre roman, Christophe Carlier, est dédié aux anonymes.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez expliquer un peu cette dédicace singulière, parce qu'après on va passer à l'exergue qui est tout aussi singulière.
J'aime bien le fait que anonyme, nous sommes tous des anonymes, je ne sais pas pourquoi anonyme prend une coloration péjorative. Donc j'avais envie de dédier le livre aux anonymes, mais pas simplement aux auteurs anonymes ni aux alcooliques anonymes, oui, mais aux anonymes que nous sommes tous, qui prennent le livre et qui verront peut-être avec un peu de satisfaction qu'il leur est dédié.
Alors l'exergue n'est pas mal non plus. Il y a des
anonymes, c'est toujours les autres en même temps. Non oui. Comment un anonyme peut se reconnaître comme tel?
Alors, il faut dire que le romancier n'est pas anonyme. C'est le seul qui puisse prétendre au non-anonymat dans le livre.
On est toujours l'anonyme de quelqu'un. Bon. Il y a des dos, virgule, dans la rue, virgule, qui appellent le couteau. Pourquoi? C'est une phrase d'Octave Mirbeau dans Le Jardin des Supplices.
Alors, Octave Mirbeau est un auteur que j'apprécie particulièrement et j'aime bien cette phrase qui tout d'un coup inverse l'interrogation. Non pas il y a des gens qui tout d'un coup prennent un couteau, pourquoi? Mais il y a des dos dans la rue qui appellent le couteau, pourquoi?
Des dos anonymes, des
gens qui finalement appellent que quelqu'un intervienne et ce dont ils sont en quelque sorte responsables. Alors c'est encore pire quand on imagine que c'est non pas leur visage ou leur tête, on imagine toujours qu'on est responsable de son visage, ce qui est faux, mais leur dos qui leur échappe totalement. Comment pourraient-ils eux-mêmes savoir, puisque c'est dans leur dos, que leur dos appelle le couteau?
Pas comme.
C'est le dos trahit l'homme. Enfin, c'est intéressant, oui, la question des tués. Est-ce qu'on est né victime? Est-ce qu'on est programmé pour être une victime? C'est vrai qu'on fait beaucoup la psychologie des tueurs. Il y a des émissions entières là-dessus, des faites entrer l'accusé. D'ailleurs, j'aime bien regarder ça quand j'ai des insomnies. Mais on fait assez peu le portrait psychologique d'un tué. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à voir.
S'il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la culpabilité des innocents et l'innocence des coupables. Et je trouve que dans le livre, il y a un moment où je sentais à la fois cette interrogation de chacun, puisque finalement, si chacun reçoit une lettre anonyme, il est potentiellement coupable. Mmh. Et en même temps, ce moment où, en entrant dans la psychologie de ce corbeau, on découvre qu'il y a en lui une part d'innocence.
Ah bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. On a passé la dédicace, on a passé l'exergue. Maintenant, entrons dans le récit. Christophe Carlier, voilà, nous abordons dans l'île grâce à Laurent Polleret qui nous a mitonné une houle, je ne vous dis pas, sur laquelle doivent planer des contingents d'oiseaux de mer extrêmement inquiétants et fort gothiques. Je ne sais pas s'il y a des bancs de corbeaux qui flottent à la surface des flots, mais en tout cas c'est ce soir le cas dans Mauvais Genre. Alors d'abord cette île, pourquoi avoir, répétons-le, pourquoi avoir choisi une île dont vous dites qu'elle est rincée par les pluies, battue des vents, telle était l'île qui, sans être perdue très loin en mer, n'en présentait pas moins un décor de bout du monde où les maisons semblent des maisons de poupées.
Dans une île, je trouve que la géographie disparaît totalement. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'on est entouré d'eau. Mais au fond, on nous dit on est au large de tel pays, on est à tant de kilomètres de telle autre île. Ce n'est pas éclairant. On est dans un endroit où finalement on est solitaire, on est au milieu de nulle part. Pour le coup, l'expression commune devient juste. Et on est réduit à soi-même. C'est extraordinaire d'être dans l'ailleurs absolu. Dans une île, on est dans l'ailleurs absolu. Mais on découvre aussi que cet ailleurs absolu, il vous enferme terriblement.
Vous écrivez être au bout du monde, à la fin des terres, c'est l'impression qu'on a partout sur l'île. On croirait que le sol se dérobe, rongé par la vague, et qu'on est le dernier homme à tenir debout, poussé par le vent, qui finira par vous faire perdre l'équilibre. Et après, vous dites, dans les champs, les corbeaux voletaient, plus arrogants qu'à l'ordinaire, lançant à tout venant des cris de triomphe. Ils semblaient pressentir l'heure de leur avènement. Il y a quand même des corbeaux dans l'île, déjà avant l'anonymographe.
Oui, il y a des corbeaux, il y a des oiseaux de mer, et ils sont extrêmement présents. On les entend tout le temps.
Et au sein de cette île, il y a l'épicerie. Il y a quand même des lieux où les gens se rencontrent. Alors, vous avez campé une petite humanité qui est là, un peu serrée l'une contre l'autre et qui, brusquement, eh bien, est confrontée à cet événement.
Oui, on a l'impression que dans certains endroits, au café, à l'épicerie, les gens serrent les coudes. Et alors, ils serrent les coudes en permanence dans un lieu qui est hostile, qui est soumis aux tempêtes, au vent, aux bourrasques, et qui est aussi, tout d'un coup, soumis à un autre danger qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui, à la fois, rapproche les gens les uns des autres et, évidemment, au bout d'un moment, les sépare quand ils prennent conscience que le responsable, celui qui envoie les lettres, peut être chacun d'eux.
Oui, parce que vous donnez ce sentiment très fort en lisant le roman, qu'à la fois les gens sont les uns sur les autres. Ce sont des insulaires, ils se connaissent tous, ils se voient tous les jours. Mais en même temps, ils sont tous parfaitement solitaires et parfaitement indépendants. Ils sont à la fois, je dirais, des naufragés et en même temps un équipage.
Oui, ils sont un équipage, en effet, parce que cette île, elle ressemble à un bateau. Et il faut bien que chacun soit à sa place pour que la société fonctionne. Simplement, là, il se trouve qu'il y a un rat dans la cave.
Voilà. Et donc, celui par qui le scandale arrive, avant qu'on sache qui est l'anonymographe, c'est le facteur. Alors, le facteur, on est dans un temps où les communications se faisaient par voie postale. Et donc là, il y a quand même le moment, vous mettez ça en scène fort joliment, du facteur qui est un personnage qui est central, essentiel du quotidien, et qui brusquement se devient, qui est positif, puisqu'il amène des nouveautés, les nouvelles du continent. Bon, et puis là, un jour, c'est autre chose qui arrive.
Et oui, alors en plus, ce qui est terrible pour lui, c'est que ses lettres, assez rapidement, on comprend qu'elles sont écrites d'une certaine manière, avec un certain timbre. Il sait ce qu'il va livrer et il est évidemment là pour distribuer le courrier. Donc, il y a des moments où il distribue le courrier en essayant de pas se faire voir. Il y a des moments où il distribue le courrier avec le sentiment qu'il vient de faire un mauvais coup. Et évidemment, il y a des moments où on se retourne vers lui en disant « Mais qu'est-ce que tu as apporté, toi, aujourd'hui ?» Et évidemment, il n'a rien fait d'autre.
Il finit par soupçonner, par accuser le facteur d'être coupable du courrier qui distribue pas comme tellement.
C'est bien sûr le facteur est l'archange d'un dieu qu'il ne connaît pas, quoi, d'un mauvais.
Il s'appelle Gabriel.
On y pense tout de suite. C'est très beau d'ailleurs ça. Ce qui est, c'est étonnant d'ailleurs de penser. La non-temporalité, l'île permet aussi l'intemporalité, parce qu'évidemment dans une ville, aujourd'hui on imaginerait des fonctionnements de corbeaux de type profil Facebook, quoi, un profil inventé, etc.
Mais oui, il y en a d'ailleurs. Il y a des gens qui envoient des messages anonymes avec une boîte qu'ils viennent de créer.
Bien sûr, absolument.
C'est très facile de le faire.
Bien sûr.
Mais simplement, on imagine que dans le cas d'un corbeau, il y a un plaisir de la mise en scène, un plaisir de l'élaboration du message, et que le plaisir de la mystification n'est pas le même. Et d'ailleurs, dans l'histoire, le corbeau apparaît un jour ici, un jour là, à un moment, il renonce à envoyer par la poste et il dépose la lettre. Alors tout le monde se demande après qui va déposer la lettre. Puis la suivante arrive par la poste. Il y a, je crois, un plaisir de l'acheminement, de la mystification, et le facteur, il montre cela. Et puis en plus, moi j'aime bien l'idée que les scènes qui sont les plus rassurantes et les plus quotidiennes, comme un facteur qui passe sur sa bicyclette, tout d'un coup peuvent se charger d'angoisse ou d'imprévu, parce que quelque chose s'est passé. Qui tout d'un coup modifie le regard qu'on a sur ces scènes familières.
Oui, c'est un rapport esthétique aussi, l'anonymographe. Les corbeaux sont aussi des artistes.
Bien évidemment. Alors, le contenu des cartes postales n'est pas du tout du même type que celui que vous évoquiez il y a quelques instants, comme on peut en trouver dans le Corbeau de Clouzot. C'est quelque chose de beaucoup plus sobre et de beaucoup plus curieux. Je vous cite, le corbeau n'avait pas de cible privilégiée. Sa haine était abstraite, diffuse, intemporelle, comme s'il voulait mettre chacun devant sa propre réalité et lui faire honte de ce qu'il était. Il ne donnait pas l'impression d'en vouloir plus précisément à l'un ou à l'autre. Alors là, c'est très étonnant, puisque ça n'est pas cette espèce de sauvagerie ciblée qu'il y a chez l'anonymographe type Clouzot. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus angélique, si j'ose dire.
Qui est plus dilué, sauf que ça fait peut-être aussi mal, voire plus, parce qu'il me semble que rien n'est pire dans la vie que de ne pas savoir ce qu'on vous reproche. Or, c'est ce qui arrive à ces gens. On leur donne un message sur lequel ils réfléchissent. Quelquefois, d'ailleurs, il est exact. Quelquefois, il est assez flou et inexact. Mais en tout cas, ils sentent l'hostilité. Ils se demandent ce qu'ils ont bien pu faire.
Il y a quelque chose de très particulier dans votre roman qui est scindé en trois parties. On a la première partie où il y a la montée de la tension, la deuxième partie avec presque un glissement vers le fantastique, la deuxième partie où tout est totalement désamorcé, on sait qui est le corbeau et on sait pourquoi il écrit.
Je spoil pas.
Et la troisième qui est un retournement assez extraordinaire. Et dans le fond, en fait, rien n'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que les lettres, c'est pas vraiment grave. Le corbeau n'est pas non plus vraiment une personne auquel on ne s'attendrait pas. Et puis, dans le fond, l'assassin, je ne veux pas spoiler, donc je n'irai pas plus loin. Mais disons que tout est toujours désamorcé, à la fois le fantastique, à la fois l'effet de suspense. Et tout est un peu chargé de fatalité. On a l'impression que vous dites l'absurdité à sa logique, mais on a l'impression que vous parlez un peu de banalité du mal, comme dirait Anna.
Oui, et pourtant, en effet, c'est banal. Je crois que c'est une histoire quotidienne et les personnages n'ont rien qui les distingue des autres. Il n'y a pas de serial killer ou de choses. Et en même temps, quelque chose s'est passé qui est très grave et qui ébranle tout.
De même que d'invisibles racines se croisent sous terre, entremêlant la vie des végétaux, les insulaires tiennent les uns aux autres par des fibres dont le tracé est enfoui. Ailleurs, les êtres peuvent croire qu'ils n'ont rien en commun, ce qui reste illusoire, compte tenu des rencontres matérielles ou non entre les existences, des parallélismes de destin et de comportement, ou des affinités qui unissent toujours les vies d'hommes. Sur l'île, cette fiction n'a pas droit de cité. Tous sont du même bois. Écrire à son voisin, c'est s'accuser soi-même. Ne pas signer, c'est refuser ce trait si léger qui sépare le moi du vous et dont chacun sait qu'il n'est qu'une convention.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Un extrait de Ressentiment distingué, roman de Christophe Carlier, chez Phébus, notre invité de ce soir, dans Mauvais Genre. Alors en effet, avec cette campagne régulière, quotidienne, du corbeau dans l'île, Christophe Carlier, eh bien, d'une certaine façon, le péché est entré dans la vie. Enfin, il a été révélé, puisque vous montrez, les gaz sont libérés, je vous ai cité au début de l'émission, on a mis à nu ce qui était caché, il y a une espèce de renversement qui s'est produit, et là, la magie cesse d'agir, je vous cite, l'horizon se resserrait, le flot se transformait en serpent, l'écume en bave, puisque là on a mordu dans la pomme, les insulaires sont devenus des gens qui s'observent. Ils ont rompu le bienheureux pacte d'indifférence qui les unissait par des liens distendus. Leurs gestes et leurs paroles se sont mis en réseau. Alors, il y avait une espèce d'équilibre entre la solitude de chacun dans l'île et puis la nécessité de fonctionner de manière communautaire puisque chacun dépend des autres. Mais ça ne se disait pas, ça ne se pratiquait pas, c'était ça comme bon. Et là, avec cette campagne, brusquement, les gens se regardent et le sentiment du réseau naît. Et c'est ça qui est terrible, c'est pas l'existence du réseau, c'est son ressenti, c'est son sentiment.
Oui, tout d'un coup, ils sont face à eux-mêmes. Ils voient qu'ils se connaissent toujours, ils ont appris à fonctionner les uns vis-à-vis des autres, en particulier grâce au silence. Et tout d'un coup, les choses explosent, alors les gaz se libèrent. Ce qui est curieux, c'est que... Je trouve ça intéressant d'ailleurs. Dans les lettres anonymes, il y a un rapport au bien et au mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui envoie une lettre anonyme fait quelque chose qui n'est pas formidable, évidemment. Mais en même temps, souvent, le corbeau, il se voit comme un justicier. Il vient distribuer pas simplement les paires de claques, mais aussi les jugements moraux. Il remet les gens les uns face aux autres.
C'est presque un moralisateur,
oui,
plus qu'un dénonciateur ou un tortionnaire.
Mais oui, c'est totalement immoral. Et en même temps, le problème de la morale est posé. Et la personne qui envoie ses lettres, elle se prend à un moment ou un autre un tout petit peu pour Dieu. Même si, bien sûr, on n'a pas envie de crier, enfin de reconnaître la sainteté ou de dire que cette personne-là fait un acte de bravoure ou de justice. Il n'empêche que le problème qui est posé, c'est en effet de remettre les gens face à eux-mêmes et de poser quelque chose qui est du domaine de la faute.
Et vous dites l'affreux désordre que révèle le spectacle des écorchés. C'est ce que révélaient les lettres du corbeau, c'est-à-dire qu'il retourne les choses.
Oui,
c'est le spectacle des écorchés. À nu, c'est la mise à nu du,
voilà, c'est la
du
mise
fonctionnement
à nu
de l'île.
De quelque chose qui en même temps est extrêmement humain.
Pas comme oui, vous le montrez très bien, c'est très beau ça dans votre roman. Je dirais pas que ça va jusqu'à rendre gloire aux anonymographes, mais ça leur rend justice. C'est-à-dire que ça rend justice à l'injustice qui est perçue, même si, bon, je révèle pas, machin, hein, je spoile rien, mais c'est un point intéressant dont vous parlez. On pense qu'ils viennent sortir des gens d'une innocence qui est la leur, mais oui. Il n'y a jamais eu cette innocence. C'est simplement, il y a une convention que ces trucs-là sont cachés. Toutes les fautes des hommes, ils vivent avec elles et ils les montrent pas. Maintenant, à un moment, bon, ils sont confrontés à ça, ça fait des vagues. Mais oui. Je comprends le désir derrière. Enfin, on comprend avec
moment,
ça le désir derrière.
Et à un
derrière.
Moment, les gens finissent par se demander ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils rédigent leur propre lettre anonyme.
Oui.
S'ils devaient s'écrire quelque chose, qu'est-ce qu'ils se diraient? Ils sont bien obligés à ce moment-là de regarder leur vie différemment.
Ouais. Oui, puisque d'ailleurs, effectivement, là, après, une sorte d'épidémie qui commence à apparaître, des lettres oui. d'autres types apparaissent. Oui. Grosso modo, c'est même presque comme un examen de conscience.
Oui, c'est-à-dire que l'anonymographe, c'est soi-même et c'est l'autre en même temps. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont fait dédier le livre aux anonymes. C'est-à-dire, est-ce que l'anonyme, c'est l'autre ou est-ce que c'est soi-même ?
Christophe Carlier, on sait, on apprend quand même qui est le corbeau. On ne dira pas qui c'est, bien sûr. Mais il y a toute une analyse que vous faites des raisons qui l'amènent à avoir fait ce qu'il a fait, et dont des moments assez étranges dans sa vie, notamment la scène de la tasse brisée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je trouve ça très fort, cette scène de la tasse brisée, qui lui donne à ce corbeau le sentiment qu'il peut bousculer l'existence des autres par des petits gestes.
C'est souvent par des gestes dérisoires qu'on prend conscience de son pouvoir sur autrui. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette psychologie du corbeau, c'est que c'est quelqu'un qui découvre tout d'un coup la puissance qu'il a sur autrui, le pouvoir qu'il a sur... Et comme toute personne qui a du pouvoir, bah évidemment, il a tendance à en abuser. Dans la seconde partie, en effet, on est dans l'esprit du corbeau. Et je crois que quand j'ai lu des livres qui racontent l'histoire d'anonymographe, on est rarement à l'intérieur de son esprit. Parce que l'anonymographe, lui, pour le coup, c'est toujours l'autre. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de lutte qu'on mène dans les livres jusqu'à cette source obscure qui se déverse sur tout le monde. Et je trouve que lorsqu'on est à l'intérieur de son esprit, à la fois on comprend sa logique et à la limite on partage même son regard sur autrui. Jusqu'au point où j'aurais bien aimé que dans la seconde moitié du livre, il y ait une sorte de suspense dans lequel le lecteur se dise, pourvu qu'il ne soit pas pris, pourvu qu'il arrive à échapper, qu'il n'ait pas passé entre les mailles du filet, pourvu qu'au fond il ne soit pas bêtement confondu. Et j'ai vu en lisant des livres sur des affaires semblables que une des caractéristiques des anonymographes, c'est que même lorsqu'on les confond, qu'on trouve chez eux le matériel, qu'on trouve des empreintes, etc., ils continuent toujours à nier. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à avouer, parce que la coupure est telle entre le moi social et le moi intime qui a mis du temps à écrire ces lettres, que c'est absolument impossible de dire oui, c'est moi. De la même manière, on constate souvent un écart très fort entre le langage châtié de ces gens ou la manière dont ils sont habillés, et puis quelquefois la façon dont ils écrivent de manière très ordurière, très très brutale, très argotique. C'est pas tout à fait le cas de mon corbeau à moi, mais il y a un cas qu'on raconte d'une personne qui avait une vie extrêmement chaste et rangée et qui décrivait des scènes de viol avec une précision et un vocabulaire dont on se demandait vraiment d'où cette personne-là pouvait les tenir.
Ben c'est peut-être de l'ordre oui c'est ça, une espèce de dissociation de la personnalité, parce que alors, ce qui n'est pas le cas chez vous, votre corbeau, il pratique, enfin on voit d'abord en première partie ce qu'il fait et puis après tout est montré, analysé sous l'angle de la conscience puisqu'il...
Oui, parce que ça me paraissait presque une facilité conscient. De dire, en effet, c'est un personnage qui est double, qui a une partie très noire et une partie très claire. J'essayais de montrer justement que dans ce personnage-là, convergent la source claire et la source sombre.
Pas comme tellement.
Oui, ça c'est aussi une des particularités de votre roman, c'est très très intéressant. Pour la question de l'impossibilité d'avouer, ça, vous parlez de la personnalité clivée, etc. On peut aussi se demander à quel point c'est pas une divinité qui s'inscrit à l'intérieur d'eux aussi, hein. Parce qu'à ce moment-là, ils sont juste dictés. Ils peuvent peut-être même qu'ils oublient intégralement les moments où ils écrivent les lettres. Hein. Oui, alors pas votre personnage.
Oui, non, ça c'est dans la fiction dans laquelle en effet les gens sont persuadés qu'ils sont détenteurs de messages qui viennent d'ailleurs.
Oui.
Mais dans le cas de ce personnage-là, qui n'est pas un corbeau très inspiré, il y a un moment où on voit comment naît le message, comment on peut tourner la phrase d'une manière ou d'une autre. Puis tout d'un coup, quand la phrase arrive, bien cinglante et bien ciselée, il y a une sorte de satisfaction d'auteur, ce personnage, qui se dit, ben là, c'est bien, là, je ne ferai pas mieux, je peux l'envoyer, celle-là.
Alors, en même temps, c'est un corbeau qui est percé à jour. Enfin, ce n'est pas un corbeau qui est dans la total mystère. Vous montrez qu'on se doute de son identité, il est d'une certaine façon observé, il n'est pas... Et les gens qui l'observent donnent le sentiment d'être aussi corbeau que lui. C'est ça qui m'a un peu frappé.
Oui, parce que ce qui caractérise l'anonymographe, c'est le soupçon. Et dès qu'il y a dans une société des lettres anonymes qui sont envoyées, tout le monde éprouve le soupçon. Donc tout le monde regarde le voisin en essayant de voir un travers, un indice, et tout le monde se demande, est-ce que par hasard... Or c'est ça la lettre anonyme, c'est ce message qu'on envoie à autrui en disant on vous a démasqué et on sait bien de quoi vous êtes capable.
Ouais.
Sixtine ?
Moi ma question, c'est depuis tout à l'heure ça me tourne dans la tête, puisque vous avez parlé de cette exergue aux anonymes, et ma question était sur l'auctorialité, en fait. Comment votre acte d'écriture s'inscrit dans ce rapport à l'anonymat, puisqu'en fait vous créez déjà vous écrivez avec que des petits paragraphes qui permettent en fait la multiplication des points de vue avec des tas de petits portraits d'individus solitaires, et comment votre acte d'écriture engage votre talent d'écrivain, votre personne, enfin votre définition d'auteur et votre par rapport à ce statut d'anonyme, par rapport au Pardon,
Christophe Carrier. Oui, on promène une sorte de curseur sur ces personnages. Alors quand on écrit, on a toujours cette possibilité tout d'un coup de faire un effet de loupe sur un visage ou de faire un arrêt sur image et de regarder une personne et de se dire tiens, cette personne-là elle est peut-être plus intéressante que ce que j'avais imaginé en un instant, etc. Et puis ces petits paragraphes dont vous parlez, dans mon esprit à moi, ce sont des petites îles finalement, c'est-à-dire des petits îlots de texte qui font que d'un moment, en effet, le roman était une sorte d'archipel.
Ma question, justement, était peut-être de dépasser l'intrigue pour aller jusqu'à votre propre discours et votre propre idéologie, donc ce que vous incluez dans le texte, justement, par rapport à la structuration de votre...
Oui, parce qu'il n'y a pas de narrateur vraiment identifié.
D'accord.
C'est-à-dire que dans le livre, on ne se dit pas l'histoire est racontée par quelqu'un, mettons un voyageur qui débarquerait dans l'île et puis qui noterait au fur et à mesure l'histoire.
Il y a un enquêteur, d'ailleurs, il y a un policier.
Oui, mais l'enquêteur, ce n'est pas lui qui mène l'histoire. Et finalement, il est lui-même aussi sous le regard des autres. Et donc, parce que précisément, il n'y a pas un narrateur très clairement identifié, il y a cette espèce de charge, il y a un pronom qui revient très souvent dans le roman, c'est « on ». Et c'est ce « on » qui mène la narration, finalement. Le « on » étant tout le monde, vous et moi, tous les habitants de l'île, et il y a cette espèce de « on » anonyme, et le personnage qui revient le plus souvent dans la narration.
Et votre « moi » auteur, votre « moi » auteur, où est-il dans tout ça?
Le « moi », c'est le « on », c'est-à-dire que je peux pas, je peux pas dire « il y a un personnage dedans et c'est moi », comme
non,
si tout d'un coup j'étais Hitchcock, et je dis « voilà, le facteur c'est moi, ou le corbeau c'est moi », j'ai pas du tout cette impression-là, j'ai l'impression...
Je me trompe ou est-ce que ce que lui demande en fait grosso modo c'est s'il écrit pas comme un corbeau en fait.
voilà
c'est ça, voilà. C'était mon tropisme de faire correspondre le fond et la forme.
Chaque paragraphe n'est pas en définitive une lettre anonyme. Ouais. En tout cas, nous vous recommandons fort chaudement ce roman Ressentiment distingué de Christophe Carlier chez Phébus, un roman énigmatique, insulaire, un roman de corbeau, parfaitement mené du début à la fin, je le répète, c'est aux éditions Phébus. Deuxième temps de votre mauvais genre ce soir sur France Culture, les chroniques. On commence avec vous, Sixtine Audebert, et la monographie parue chez Joseph K, consacrée à Détective, mais Détective 1928-1940, à l'époque où c'était un produit des éditions Gallimard.
Oui, alors la monographie, mais aussi l'exposition qui se tient en ce moment à la Bilipo jusqu'au 1er février. Donc la Bilipo, la Bibliothèque des littératures policières. Donc je vais d'abord.
Rue du Cardinal Lemoine, à Paris.
Vous dire un mot des commissaires et des rédacteurs du livre, Marie-Ève Terranti et Amélie Chabrier, qui font partie de l'équipe de chercheurs en littérature de Nîmes-Montpellier et qui ont, en fait, depuis des années, fait des travaux pionniers sur le lien entre littérature et presse et donc qui organisent cette sublime exposition Détective Fabrique de Crimes. Alors, elle tourne évidemment, comme vous l'avez dit, autour de l'hebdomadaire Détective dans sa période Gallimard, donc de 28 à 40... j'allais dire 42.
Non,
et donc
40.
C'est pendant l'entre-deux-guerres, donc au moment où des revues comme Voilà, Marianne, Vue et autres titres de la presse à sensation prennent le relais en fait des suppléments illustrés. Et donc la question que pose ce titre, Fabrique de crimes, c'est comment cette revue, donc Détective, participe de la structuration d'un imaginaire moderne de la criminalité. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'objet, déjà il est urgent d'aller voir cette exposition. Et il faut en fait se figurer des couvertures avec des photographies pleines pages, ce qui à l'époque est très nouveau, et qui exploite à fond la veine du sensationnalisme. Donc il y a des photographies qui suggèrent par exemple le document judiciaire, avec des visages d'hommes sombres, on a des femmes à la moue plus suggestive, des cadavres dénudés, et l'iconographie manipule aussi les stéréotypes du genre policier, donc avec la symbolique des mains, la symbolique des barreaux, parfois des armes. Et tout le sensationnalisme de ces couvertures est redoublé par les titres très évocateurs du périodique. On a Chicago, capitale du crime, les mystères de Paris, crime sans cadavre, rocambole, point d'exclamation, et le gigolo tragique aussi. Donc des titres qui, vous l'entendez bien, font se croiser en fait le discours du périodique avec les imaginaires populaires et sériels, celui du roman feuilleton, celui des mystères urbains, ou d'autres productions d'imaginaires criminels comme les sériels américains qui débarquent à l'époque en grande fanfare. Et donc cette recette originale qui est exploitée par la couverture, on la retrouve aussi dans les pages du détective. Ce sont des journalistes qui vont exploiter le filon du fait divers, en fait. C'est-à-dire, en fait, l'événement qui ne rentre dans aucune catégorie. Donc, depuis le meurtre de sang-froid au crime passionnel, en passant par tout ce qui touche au bas-fond, donc la drogue, les filles, tout ce qui peut avoir, en fait, une couleur un peu exotique. Mais comme je l'ai dit pour les couvertures, on retrouve un jeu à la limite du report rigoureux qui est exigé par le journalisme et la fiction. Donc la fiction tant littéraire, puisque évidemment il s'agit d'une production Gallimard, et donc elle fait aussi entrer son écurie avec les frères Kessel et d'autres comme
Simon,
Pierre Macorlan.
Voilà, Carco. Ça.
Et en même temps, elle joue aussi donc sur la fiction sérielle, donc les feuilletons et le cinéma, je l'ai déjà dit. Et donc cette ambiguïté entre fait et fiction, elle est perceptible en fait dans deux types de pratiques et de réactions qu'on retrouve chez les publics. Il y a d'abord la dimension ludique qui est développée par le périodique avec des jeux participatifs, le fameux concours des 13 de détectives, et puis le Détective Club. Et puis des publicités aussi qui mettent en scène un prolongement, une espèce de mode de vie détective. Et puis de l'autre côté, on a des débats sérieux politiques, on a des questions qui tournent autour de l'homosexualité, de la peine de mort, des filles mères, qui révèlent en fait la dimension idéologique sous-jacente des discours du journal. Et on a aussi les questions de la moralité, avec les réactions par exemple de Lacroix, qui l'accuse de pervertir les publics minorisés, les femmes, les enfants, et l'humanité qui parle d'une dérive sécuritaire. Donc je pense que ce que montre l'exposition détective, c'est en fait le fait divers comme façon toute contemporaine de ressaisir le réel, disons comme grille de lecture paradigmatique de la modernité et de...
Voilà. Donc une exposition et une monographie, Christophe Carlier, vous êtes comme le corbeau, ne cultivez pas des lettres mais des faits divers.
Je trouve très intéressant l'idée que on lit quelquefois des faits divers sordides avec un regard extrêmement hostile et en même temps une sorte de curiosité. Voilà, il y a des gens qu'on voit quelquefois qui lisent d'un bout à l'autre un article sur un fait divers atroce, qui vous dit après mais c'est honteux, c'est horrible, vous avez vu ça? Et on avait envie de dire peut-être qu'il fallait passer un peu moins de temps à lire tout cet article si vraiment on a une sorte de répulsion. Mais la répulsion, c'est un phénomène extrêmement compliqué.
Mais moi, je pense que ça tient justement au rapport avec la fiction, en fait. Parce que ça rentre en résonance avec des productions fictionnelles, ça nous permet de prendre une distance et d'apprécier avec un certain plaisir le
rapport au mystère aussi.
Le piège, c'est refermé. On passe à vous maintenant, Paco, avec deux parutions, une parution, là, Mon Lapin Quotidien. C'est pas détective, il n'y a pas de photos de cadavres et de récits d'abomination, mais Lapin Quotidien, de quoi s'agit-il?
C'est un trimestriel, contrairement à ce que le titre indique, Lapin Quotidien, mais qui ressemble à un quotidien. Il a avec un lettrage Herald Tribune, magnifique,
grand format,
très beau papier.
Éditorial.
Non, moi j'ai pas écrit l'éditorial. J'ai une section particulière contre vos premières pages, en effet. Oui, je fais de la pub pour les copains. Toujours. Non, mais c'est des gens que j'admire. C'est qui le faire et Jean-Yves Duhau qui le dirige. Donc c'est une production de l'association et c'est donc Patrice Kieffer, Jean-Yves Duhau. Ils travaillent ensemble depuis 30 ans.
l'antéchrist peut aller se rhabiller.
Oui, c'est ce que vous avez. L'éditorial qui est aussi sur la première page, c'est Paradis fiscal, Godwin, voile, loi travail, croissance, pédophilie, primaire, Charlie Hebdo, éducation nationale, mariage pour tous, CGT, populisme, laïcité, etc. etc.
Et quand on ouvre les pages,
page entière. Et quand on ouvre le journal, on trouve un casting extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un casting à la fois de dessinateurs et d'écrivains de notre époque, très l'association, parce que vous allez retrouver David B, Lewis Trondheim,
Kilofer
évidemment, mais aussi des gens qui sont pas forcément Rupert et Mulot. Vous en avez des paquets comme ça de dessinateurs qu'on associe à l'association, mais aussi des gens qu'on n'y associe pas forcément directement et qui sont aussi liés à toute la question de la presse, comme Museau et comme Placide. Placide qui a été dans la presse depuis l'Idiot International et tout ça, et Museau qui est plus lié aux productions de Pajac. Nombreuses également, et des textes dont une nouvelle de Denis Robert, des articles extrêmement drôles, dont un des textes les plus drôles est de Clémentine Melois, l'artiste Clémentine Melois.
On peut le trouver où?
On le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Toutes les bonnes librairies.
En fait, qu'est-ce que...
Et c'est un trimestriel.
C'est un trimestriel, mais qui parle malgré tout de l'actualité. En fait, le truc, c'est que c'est une génération qui n'a pas eu son journal, fondamentalement. De Kilofer, David B, Lewis, l'association. On en a souvent parlé. On a eu des revues. C'est une revue, c'est un trimestriel. Mmh. On a eu des revues. Il y avait déjà plus de magazines. Les derniers grands magazines de bande dessinée, À Suivre, Métal Hurlant, etc., disparaissaient. Et il n'y a pas eu véritablement son journal d'actualité pour toute cette génération. Et elle est obsédée, c'est des gens obsédés, un type comme Kilofer, il est obsédé par le fait de trouver une manière quand même de la traiter, une manière de traiter ça. Il y a eu Le Tigre, et Raphaël Meltz d'ailleurs, qui dirigeait Le Tigre, et dans Mon Lapin Quotidien. C'était une expérience de ce type-là.
Alors, Mon Lapin Quotidien, donc numéro 1, on suivra avec attention Les Bons du Lapin dans le futur. Un mot sur le documentaire concernant David Lynch.
Magnifique documentaire. Alors j'en avais les larmes aux yeux quand je suis allé le voir. Je le conseille à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas forcément des fans de David Lynch. Bon, moi je suis un fan de David Lynch, c'est pas vraiment la question. Mais en dehors du fait que ça raconte, en fait, pour vous le dire simplement, on voit David Lynch quasiment tout seul, il y a quelques moments avec sa fille, quasiment tout seul pendant tout le long du film, qui peint, qui passe sa vie tous les jours et qui raconte sa jeunesse. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est pour ça que ça s'appelle The Art Life, c'est l'advenu en lui de l'esprit artistique, The Art Spirit, comme le livre de Robert Henry. Donc, comment on devient artiste et à quoi on se confronte à partir de ce moment-là. Et c'est très émouvant parce que toute la question de Lynch, qui est quelqu'un qui va plonger dans les ténèbres, c'est comment faire ça en restant un good guy. Et donc, c'est l'esprit. C'est un truc qui peut intéresser que les gens qui écoutent Mauvais Genre. C'est-à-dire qui s'intéressent au mal, mais qui n'ont pas forcément envie de devenir des crapules.
Visible où?
Visible dans tous les bons cinémas.
Dans tous les bons cinémas.
À partir du 14 février. C'est produit, donc, c'est distribué par Potemkin.
Et c'est un événement France Culture.
C'est sublime.
C'est tout vous dire. Merci, voilà. Paco. On passe maintenant avec quelqu'un qui vient de nous rejoindre et que je salue, Nicolas Martin, pour un point sur les séries. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, et merci de m'accueillir dans cette crapuleuse assemblée.
Voilà, absolument. Bienvenue dans la crapulière. Bienvenue sur l'île aux démons. Donc avec vous, on ira à la rencontre très régulièrement des séries. On va commencer par une chronique, je dirais, un peu resserrée, vous savez comme on est, concernant Westworld.
Absolument, dont vous entendez les quelques notes du générique, le générique qui vaudrait une chronique à lui tout seul, qui est très très beau, où on voit ces espèces de robots assemblés avec des fibres synthétique. Bref, Westworld, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau projet pharaonique de HBO. Vous savez, HBO, la chaîne bien connue de Six Feet Under, de Carnival, La Caravane de l'Étrange. Ah, excellente série.
Ma série.
Excellente série avec Michael G. Anderson.
Série, François.
Voilà. Plus récemment, The Leftovers et surtout, évidemment, Game of Thrones. Game of Thrones qui est un peu la vache à lait de HBO, la série puissance 10. Or, la vache à lait est en train de se tarir puisque c'est bientôt terminé. Il fallait donc trouver un successeur et c'est l'ambition de Westworld, d'être le successeur de Game of Thrones. Alors, prends pas de risque, HBO, du coup, au lieu de partir sur sur la scène originale, c'est une adaptation, comme Game of Thrones l'est des romans de Martin. Ici, c'est l'adaptation d'un film assez oubliable de Michael Crichton, qui s'appelle Westworld aussi, en 83, sur un scénario éculé, Rise of the Robots, les robots se révoltent. Budget énorme, 100 millions de dollars, 10 millions par épisode, hein, c'est vraiment beaucoup. Cerise sur les gâteaux, c'est filmé en 35 mm. À ma connaissance, c'est la première série à être filmée en pellicule. Et avec le frère Nolan au scénario, J.J. Abrams de Lost à la production, et au casting, Anthony Hopkins et Ed Harris. Vous voyez qu'on a mis les grands plats dans pour les grandes marmites. Alors le pitch, je vous le disais, hein, c'est assez simple. C'est dans un futur, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, c'est une société titanesque a créé un parc d'attractions western, dans lequel tout est permis. C'est-à-dire que c'est des êtres humains qui vont là-bas et à l'intérieur, il y a des robots qui ressemblent, qui sont des androïdes extrêmement sophistiqués, faits de chair et de sang, mais ce sont des robots. Et dans ce parc d'attractions, tout est permis. Hein. Le viol, la prostitution, le crime, on peut tirer dézinguer à tout va, et c'est évidemment réservé à une élite riche de nantis. Sauf que le problème, évidemment, c'est que les robots vont s'éveiller à la conscience et vont commencer à se souvenir de leur passé et vont évidemment se retourner peu à peu contre les programmeurs. Donc vous voyez, hein, c'est du Asimov all over again, hein, on y retourne. Les robots n'ont pas le droit de blesser les humains à l'origine jusqu'au moment où, évidemment, ils vont pouvoir s'armer et se retourner contre leur créateur. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant dans Westworld, outre la surdimension de la production, c'est que c'est du pur genre. C'est-à-dire que c'est du genre dans du genre. Du western, de la science-fiction, du gore, hein, parce qu'on nous épargne pas les crânes défoncés, les morts, les robots se font tuer, retuer, re-retuer avec des plaisirs toujours plus sadiques. Tout est référentiel, jusque même à la musique. Vous allez l'entendre, la musique est jouée donc par un piano mécanique et c'est des reprises de plusieurs grands groupes comme par exemple, écoutez.
Commentaire, Nicolas.
Les oreilles attentives auront reconnu Cure au piano mécanique. Forcément, Cure au piano mécanique, moi, ça me fait verser une petite larme. Surtout Forrest. Voilà, ce qui est assez passionnant dans Westworld, c'est la mécanique de la fiction, en fait. Parce qu'on est donc dans un récit dans le récit. On nous raconte l'histoire des gens qui organisent ce parc et qui créent eux-mêmes de la fiction. Tout commence à boucler avec une série de mises en abîme, de mises en abîme, de mises en abîme, puisque les robots commencent à avoir accès à leurs souvenirs, donc accès à la racine de la fiction, donc commencent à se confondre la réalité et la fiction en prenant conscience. Et puis, et d'ailleurs, toute la série est organisée comme une boucle narrative. C'est-à-dire que chaque épisode commence de la même façon par une jeune fille qui se réveille dans un lit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces robots sont eux-mêmes des personnages créés, donc sont vraiment la synthèse de ces archétypes fictionnels. Hein. Vous avez la jeune vierge, la jeune fermière virginale, le jeune cow-boy fougueux, courageux, bref. C'est intéressant, Westworld, allez y jeter un œil. C'est du genre pour le grand public, mais c'est une série qui éduque à la science-fiction, au western. C'est vraiment de la belle anticipation, c'est un rythme un peu lent, c'est bien écrit. Ça vaut le coup d'y jeter un œil.
Merci Nicolas Martin, merci Christophe Carlier d'être venu ce soir à Mauvais Genre pour nous chanter, pour pousser le cri du corbeau, mais pour chanter la gloire donc de ce personnage singulier. Donc Ressentiment distingué, Christophe Carlier, chez Phébus. C'est un roman que je recommande à tous. Sinon, nous avons également évoqué Détective tel qu'il est représenté à l'exposition de la Bilippo et puis également dans chez Joseph K. Le documentaire sur David Lynch en salle et Mon Lapin Quotidien de l'association Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Claire Martin-Duguerre, Chloé Leblond, Sixtine, Audebert, Paco Mtielman, Nicolas Martin et François Gelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain avec ni plus ni moins que la grande Brigitte Lahaye. En attendant, on ne quitte pas France Culture et on retrouve Amaury Chardot, maître de mic.